expérience d'expédition en montagne avec un prêtre. Il paraissait qu'il était cool. Oublie ça, ça se peut pas. mais je me retrouve là, puis c'était vrai, le prêtre était cool. Puis j'ai vécu juste un 2 semaines intensif, expédition en montagne, déconnecté. Mais la première année, ça m'a fait un bien fou parce qu'on m'a comme reconnu dans autre chose que dans ça, tu sais. Mais ouais. C'était quand même. Dès que le camp a fini, je suis retombé à peu près dans la même affaire. Mais l'été d'après, je suis retourné. Puis j'étais peut-être plus présent, là, parce que la peine d'amour était plus loin derrière. Et mes parents, une des choses importantes qu'ils ont faites pour moi, c'est de m'inscrire à ce camp-là. De dire, tu peux pas rester dans ton sous-sol, tu sais, puis va faire de quoi ta vie, va monter une montagne, sors de la maison, puis comme là, prends-toi en main. Puis une des choses que j'ai découvert dans ce camp-là, c'est qu'il faut que tu sois discipliné, là. Il faut que, tu sais, c'était un peu... Dans un sens, quand t'es en expédition en montagne avec une gang de gars, c'est un peu l'armée, tu sais.
Ouais.
Il faut là, que tu ramasses ton stock, il faut que tu te lèves à temps, il faut que tu traînes ton propre poids, puis... Puis en plus, je me faisais féliciter quand je le faisais bien. Tu sais.
T'existais dans le regard des autres.
C'est ça.
Aussi,
ouais. Ça, c'était comme nouveau de 1000 façons différentes.
Ouais.
L'année d'après, ça avait super bien été. Même que j'étais rendu tellement crinqué que les autres campeurs m'ont comme choisi comme leader une fois où il fallait choisir un leader qui allait s'occuper de ça. Tu sais, les moniteurs ont dit, nous, on se retire, choisissez quelqu'un qui s'occupe de vous autres à soir. Puis ils m'avaient choisi moi. Complètement pris par surprise, ça m'a renversé, je virais fou, j'ai mal fait ma job parce que j'étais sur un high d'adrénaline impossible.
Mais c'est pas grave, il y avait quelque chose qui s'était passé.
C'est ça. L'hiver d'après, je suis rendu, j'ai 16 ans. L'hiver d'après, je suis chez mon ami, on n'a pas de cellulaire encore à ce moment-là, on est en 2005. Là.
Ou 6. Ça s'en vient,
c'est
pas long.
Ouais, c'est ça, ça approche. J'étais chez mon ami en train de jouer à Xbox. Uh-huh. On jouait à Ninja Gaiden 2. mais c'est ça, je me souviens de toutes ces affaires-là.
C'était important.
Le téléphone sonne chez mon ami. Le téléphone mural, là, tu sais. La maman répond, c'est pour moi. Yves Guérette, le responsable du camp de vacances, le prêtre que certains connaissent probablement. C'était lui le prêtre cool. Là. Il voulait me parler. Il avait appelé chez nous. Ma mère a dit, il n'est pas là, il est chez son ami. Il avait demandé le numéro de téléphone de mon ami. Puis il a demandé à me parler parce qu'il voulait me proposer d'être moniteur dans le camp de vacances. Puis instantanément, je savais que ça avait profondément du sens, ça. Puis j'ai juste dit oui. Puis ça a été le début de ce qui a eu du sens pour de vrai dans ma vie. T'sais, ça a été ça le début. J'ai été 2 années moniteur là-bas.
Dans la vie réelle.
Exactement. Après mon premier été là, de camp de vacances, j'avais capoté là, parce que on était parti souvent en expédition. J'avais accompagné d'autres ados, peut-être dans un peu le même processus que moi, peut-être moins intense, là, mais moi, j'avais vécu super intensément. Puis je voulais tellement redonner au suivant. T'sais. Puis j'ai été inscrit au cégep en animation 3D. J'avais décidé, moi, dans mon élan de pas de discipline, puis je pourrais faire ce que je veux parce que j'ai des bonnes notes, mais je préfère... Je suis allé étudier en jeu vidéo. Mais à la fin de ce premier été-là, avant le début de mon cégep, je savais et j'ai dit tout fort, je pense que je ne suis pas inscrit dans le bon domaine d'études. Puis là, ben, les gens autour de moi ont dit, ben non, tu sais, t'es inscrit, vas-y, t'es bon, pourquoi pas? Puis sans savoir, ils m'ont encouragé dans ce sens-là. Puis j'ai fait, OK, c'est vrai, je suis déjà inscrit. Puis de toute façon, ça commence dans quelques semaines. Je suis allé. Puis ça a été le début de 10 ans d'alternance intérieure, de déchirement, de tiraillement entre... Je passe mes étés dans les camps de vacances, puis la fin de semaine, j'étais même rendu moniteur de la pastorale au patro, puis je passe mes semaines devant un ordinateur à programmer des jeux vidéo, puis mes soirées à gamer, tu sais. À savoir qu'il y a un des deux qui avait du sens, mais à dire, tu peux pas faire une carrière de tout ça, animer des camps de vacances, il n'y a pas une scène à faire là de toute façon, tu sais. Fait que puis je suis compétent dans l'autre truc. Puis j'ai été déchiré.
En dichotomie.
Complètement. Déchiré entre le sens puis la compulsion. C'est ça, là. C'est... Puis la compulsion prenait le dessus généralement. Là.
Il nous reste quelques petites minutes, Jérémy. Tu parles des dix années qui ont suivi. Ouais. T'en es où aujourd'hui là, dans cette lutte-là, ce combat-là? Parce que là, finalement, tu t'es trouvé une job dans ce domaine-là. Là.
À la fin des 10 ans, ce qui s'est passé, là, c'est que ça faisait des années que j'avais des job-in ou même j'avais fait des beaux gros contrats pour différents trucs multimédia, tu sais. Le dernier que j'ai fait était tellement absurde. Le client, c'était le prince de Dubaï. J'aurais aimé ça vous le raconter, mais c'est pas grave. C'était absurde, là. J'étais comme un milliardaire à l'autre bout de la planète qui me commande de faire des nuits blanches pour un truc dont je me fous, là. Fait qu'à ce moment-là, j'ai décidé de dire, ça suffit.
C'est terminé.
C'est terminé. Je vais retourner faire l'aide aux devoirs au patron pour le salaire minimum, puis on verra où ça mène. De fil en aiguille, je suis tombé par hasard à la Villa des Jeunes. Je suis allé là, mais tu sais, je cherchais personne. Puis encore une fois, des années après, j'ai reçu un coup de téléphone de la directrice de la Villa des Jeunes, Julie Baillargeon, à qui je dois beaucoup, qui m'a dit, ben, on se souvient de toi, t'étais passé une fois, puis on dirait que t'as reconnu l'esprit de la place, puis nous, on t'a reconnu aussi, tu sais, viens t'en donc. Puis là, ben, je suis là depuis maintenant plus que 8 ans, à temps plein, tu sais, à animer des jeunes, puis à faire une carrière de ce que je pensais qui se peut pas. Puis si j'avais une chose à dire, là, j'ai toujours manqué, je crois, de discipline puis de volonté, là, vraiment. Mais ce que je peux dire, c'est que dans un sens, à cause de ça, j'ai toujours fait la volonté d'un autre. J'ai toujours fait la volonté de quelqu'un, ben, d'un captologue,
qui
voulait que je baille sur le piton puis que j'aille faire le prochain niveau puis que je sauve le monde une 100e fois. J'ai toujours fait la volonté d'un autre, mais ça, je pense que ça m'a étrangement, puis je pense que le Seigneur travaille de même, là, ça m'a disposé à juste répondre à des appels. Au début, c'était l'appel des jeux vidéo, puis à un moment donné, ben, ça a été l'appel de Yves Guérette au téléphone. J'ai dit, ben, OK, moi, j'aurais jamais eu la volonté ni l'idée de faire ça, mais OK.
Puis l'appel de Julie l'appel à de la Julie, Villa des Jeunes.
Exact. Puis l'appel du mariage par mon épouse, puis l'appel de. Puis
c'est ça.
Je pense que je suis rendu pas pire pour. Comme...
Sauver le monde.
Ouais, c'est ça. Mettons. On n'ira pas jusque-là, mais je pense être capable.
Dans la vraie vie.
Dans la vraie vie, maintenant, d'identifier, tu sais, l'effort de d'identifier ce qui vaut vraiment la peine, mais.
Ouais.
De toute façon, mon rêve, c'est de faire la volonté d'un autre, c'est de faire la volonté du Seigneur, puis ça, ben, Colin. Je suis peut-être étrangement prédisposé à pas vouloir ce que moi je veux, tu sais.
Jérémie La Liberté, merci infiniment pour ton témoignage.
On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement.
Sarah-Christine Bourriane, journaliste pour Le Verbe Média, bienvenue.
Merci.
Sarah-Christine, toi, t'as fait récemment, pour notre fameux numéro sur la technique, une enquête. En fait, t'es allée sur le terrain pour rencontrer des intervenants qui travaillent en cyberdépendance. C'était quoi ta question de départ? Qu'est-ce qui t'a animé là, dans cette quête-là?
Ben, la fameuse ligne à tracer entre le monde réel et virtuel. Est-ce que le virtuel est de plus en plus dans le réel? Et le réel dans le virtuel aussi, je vais vous expliquer pourquoi.
Ouais.
Mais donc, elle est où cette ligne? Puis c'est pas évident de répondre à cette question-là. Je pensais avoir des données claires, des chiffres clairs, mais il y a beaucoup de flou encore.
Parce qu'il y a des histoires où, comme celle de Jérémie où on voit bien qu'il y avait sa vie virtuelle d'un côté puis sa vie réelle de l'autre. Là. En tout cas,
je veux pas...
Avec
la fenêtre qui s'est... Oui, tout à fait.
Là, c'est des fenêtres qui s'ouvrent sur nos ordi.
les Windows de ce monde.
Mais
dans bien des cas, c'est très, très flou. Hein,
oui, puis c'est ce que j'ai vu en parlant avec Magali Dufour, là, qui est sur... qui est chercheur à l'UQAM, qui travaille sur Pause. C'est ça.
Pause ton écran.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est Internet de ressources.
Pour faire des questionnaires pour savoir quelles sont nos habitudes de consommation. Parce que c'est pas comme, mettons, l'alcool, c'est établi, on peut dire, un verre par jour. Bon, je sais plus trop c'est quoi la norme, mais si tu dépasses tant de verres par semaine, là, tu peux considérer que t'es dépendant ou qu'il y a un problème.
Donc, fait depuis l'Antiquité qu'on consomme de l'alcool. Donc, on a commencé à accumuler des données scientifiques, biologiques là-dessus sur qu'est-ce que ça fait, etc. Là, tout ça, c'est assez récent.
Puis, ce qui me frappe dans le témoignage de Jérémy, c'est qu'il dit « mes parents ne savaient pas ». Ben, on se retrouve un peu comme ça avec Internet. Le trouble du jeu vidéo, qui a été reconnu comme tel, ben, parce que les jeux vidéo existent depuis plus longtemps. Mais la génération qui est née avec les tablettes, c'est peut-être secondaire 5 en ce moment. C'est assez, on a peu de recul avec les données, puis est-ce que dans 20 ans, on n'est pas du monde, on va pas entendre quelqu'un qui va dire « Moi, mes parents ne pensaient pas que le téléphone, c'était mauvais pour moi. »
Lors de la 32e saison d'On n'est pas du monde. Ouais.
Donc c'est ce que la chercheuse m'expliquait. On a peut-être un recul de 14 ans de données. Donc, c'est très peu. Puis, comme société, c'est drôle parce qu'elle faisait un questionnaire où 40% des répondants au questionnaire se pensaient dépendants. Mais finalement, la dépendance clinique, on note que c'est peut-être 1 à 3 %. Donc,
Il y a presque la moitié de la population qui sent qu'on est, on sent qu'on n'est pas libre face aux écrans.
Oui, exactement. C'est donc, toute une réflexion sur les normes d'usage, à quel moment on peut l'utiliser ou pas, c'est pas très bien établi. Puis ce flou-là, c'est ça, existe aussi parce que dans les études, partout dans le monde, c'est pas les données sont pas comme interchangeables. T'sais, je regardais par exemple en Corée où c'est bien perçu de jouer à des jeux vidéo. Il y a des compétitions, il y a même l'appellation de sport électronique.
Donc, c'est juste pas né à bonne place.
Non, mais ceci étant, ça existe ici aussi en masse, les sports électroniques. Ah, ouais, okay. Il y a des ligues compétitives à l'Université Laval.
Il y a une valorisation dans la culture
populaire
qui n'est pas la même.
Non, ici, t'es quand même perçu comme quelqu'un qui met pas assez de déo, si tu fais ça. C'est une caricature, mais c'est vraiment ça l'image.
T'es le seul qui a le droit de parler comme ça.
Donc, c'est ça. Donc, déjà, bon, la disparité des données. Il y a aussi que, comme Ariel nous soulignait un petit peu, quand j'ai interviewé un intervenant de la CASA, c'est un centre, justement, Saint-Augustin, un centre de traitement de dépendance. Ouais. Donc, eux, ils accueillent toutes sortes de dépendances, dont des cyberdépendants. Là-bas, les dépendances sont un peu traitées d'une manière égale, là, au sens où la cyberdépendance, c'est plus un trouble comportemental. T'sais, c'est pas comme une substance, la cocaïne. Ça fait un effet dans le cerveau de dépendance, mais c'est pas les mêmes processus. Donc là-bas, il me disait que, c'est ça, il accueille beaucoup de gens qui ont des troubles de jeux vidéo. Les filles, il y a quelques filles qu'eux, c'était plus des réseaux sociaux. Mais il y a beaucoup de jeunes aussi, de parents qui appellent dans ces centres-là pour dire, justement, ils se questionnent si leur enfant est dépendant ou pas. Puis,
comment on les accompagne?
Dans le fond, là, c'est des thérapies fermées. Donc, okay. Quand tu arrives là, c'est 28 jours. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde, mais c'est vraiment, tu mets ton cellulaire sous clé. Tout le monde est traité de la même manière parce que c'est vrai que quelqu'un qui voudrait s'acheter de la cocaïne pourrait aussi prendre son téléphone. Puis, Donc, t'as vraiment, c'est ça. On parle pas beaucoup de dépendance comme telle. On va pas te parler de drogue, on va pas te parler tant que ça. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. T'sais. Mm. Quels sont les besoins? Qu'est-ce que t'essaies de combler en essayant, par exemple, de te mettre en scène sur les réseaux sociaux puis en étant dépendant de l'image de toi-même que tu projettes?
Non, mais c'est important que tout le monde sache que j'ai mangé pour déjeuner le matin, non?
Donc, c'est sûrement tout ça qui est adressé.
Je peux pas mépriser
ça. C'est ça. Puis, il me disait que...
Même si, mais...
On se reconnaît tous un petit peu.
Ben oui. C'est
mais c'est sûr que ceux qui sont là, quand je parlais des frontières du réel puis du virtuel qui s'interpénètrent, ils me racontaient qu'il y avait des jeunes qui étaient là parce qu'ils avaient dépensé des milliers de dollars en épées virtuelles dans un jeu, tu sais, ça peut, ils prennent la carte de crédit des parents, puis à un moment donné, tu vois qu'il y a un 10 000 $ qui est parti, il y a des économies alternatives dans ces jeux-là. Puis il y a des mécanismes de gambling, en fait, qui sont utilisés pour donner envie d'acheter. Tu sais, toi, je sais pas si t'as...
Mais j'ai pas eu l'occasion d'aborder le fiasco financier qui a été ma vingtaine, là, mais...
Ah oui?
Ah, complètement, là.
Puis... Ben là, prenons 30 secondes.
Non, mais intéresse. En gros, c'est juste... Et ce manque de discipline-là fait que j'ai même pas géré mes impôts, tu sais, pendant comme 7 ans. Puis pendant comme, tu sais, c'est épouvantable, là. Puis quand j'avais une paye, tu sais, ma première paye à vie, j'ai acheté une Xbox. Quand j'avais une paye, avant de penser à mon loyer ou quoi, fallait que j'achète le dernier jeu qui venait de sortir, tu sais. Puis après, j'étais dans le genou pour mon loyer. Puis c'était le père de mon ami, le propriétaire. Fait que, tu sais, ça complique tout, là.
Wow.
Puis c'est quand je me suis fiancé. Je me suis dit, là, c'est pas vrai que j'amène ça dans mon mariage. Mais tu sais, ça fait pas si longtemps, ça fait 5 ans que je suis marié. Puis j'ai comme ouvert mon tiroir à factures non gérées, là, tu sais, que j'avais peur que l'huissier débarque chez nous à n'importe quel instant depuis des années. Puis là, j'ai géré tout ça. Je réalisais que le 3/4 était déjà réglé, mais que ça m'avait hanté pendant des années, tu sais. Puis le reste, j'ai réglé mes impôts, puis ça coûtait cher, puis il a tout fallu que je mette ça en ordre, mais tu sais, ça a été, encore une fois, c'est comme un appel qui a fait ça.
Mais c'est intéressant, parce que ça revient à ce que Sarah Christine disait au début, le virtuel vient jouer dans le réel,
où
là, finalement, ça a un impact sur ton compte en banque, sur tes... éventuellement sur tes relations avec les autres. Imagine si tu avais caché ça à ta future épouse à l'époque. Bon, ça peut devenir très compliqué.
Elle s'en doutait, mais elle savait pas à quel point. T'sais, elle voyait bien que c'était compliqué, c'était difficile, mais elle savait pas l'ampleur de la chose. Puis il fallait que je mette ça en ordre avant de m'engager avec elle.
Il nous reste 3 petites minutes. Sarah, ouais, ça passe vite. On a parlé du type d'intervention. Quelques cas, là, tu l'as évoqué un peu. Comment ça se manifeste, là, la cyberdépendance chez les gens qui sont accros?
Ce qui est intéressant aussi, j'ai parlé aussi à des travailleurs de rue numériques.
Mm.
Donc, parce que dans le fond, pour rejoindre ces jeunes-là, il faut aller les voir sur leur terrain.
T'sais. Et qu'ils jouent en ligne avec eux?
Oui. Donc, ils vont sur des sites. J'ai dû faire des recherches
comme
pour
Twitch,
savoir c'est quoi Twitch puis Discord. Okay. Ou qu'il y a des diffuseurs qui mettent des vidéos live. Puis, il y a du clavardage en ligne. Puis, eux, ils prennent un pseudo. Puis, c'est anonyme. Donc, les jeunes qui sont cyberdépendants, ben, ils sont dans leur sous-sol. Ils ont du mal à sortir de chez eux. Donc, pour eux, c'est exigeant de prendre un téléphone puis appeler dans un centre d'aide. Donc, ils ont fait à peu près 2000 interventions en un an. C'est assez récent comme discipline, là, d'être travailleur de rue qui n'est plus dans un parc, mais en ligne. Puis, ils trouvent toutes sortes d'enjeux, de la cyber-intimidation, de la cyberdépendance. T'sais, quelqu'un qui a du mal à s'intégrer dans son équipe, puis là, qu'en ligne, on lui dit « Hey, t'as pas ta place
sur le terrain. » L'extorsion aussi, peut-être, des fois, des trucs comme ça.
Oui, donc, c'est toutes sortes d'enjeux. Puis, à la CASA, c'est ça, ben, il dit un jeune qui arrive puis qui est dans notre centre, ben, c'est déjà un grand progrès là, qui arrive à sortir c'est ça, de chez lui.
Il nous reste une minute, oui. Sarah, je veux t'entendre sur les aspects politiques de ces enjeux-là, parce que là, on a commencé un peu avec ça aussi au début de l'émission,
oui.
En parlant du fait que c'est une science, la captologie.
Oui.
Il y a des intérêts qui sont assez clairs,
oui.
Des intérêts politiques, des intérêts financiers immenses.
Oui.
Parle-nous rapidement.
Ce qu'il faut savoir, qui est rassurant, mais de se dire que ce n'est pas qu'un problème individuel. C'est pas comme Jérémy qui n'arrive pas à se discipliner. C'est un problème politique. On est victime, en fait, de gros conglomérats qui veulent acheter nos clics, connaître des informations sur nous, vendre des métadonnées. Ça fonctionne 24/7. C'est des milliards et des milliards de profits plus gros qu'un pays. Donc, les GAFAM, Google, Amazon, Apple, Facebook, je le dis pas dans le bonheur, Microsoft.
Mm-hmm.
Donc, tous ces gros conglomérats carburent à utiliser nos données personnelles. Puis, ils ont de l'avantage de créer de la captologie parce qu'ils financent leur activité de cette manière-là. Donc, c'est des denrées...
D'où l'importance de ne pas se battre seul dans
oui,
ce combat-là, d'aller chercher de l'aide qu'on a besoin, c'est ça?
Exactement. Puis, tu sais, il y a une importance comme société que le politique s'implique davantage. Il y a eu des recours collectifs de parents, justement, qui ont poursuivi Epic Games, qui est le créateur de Fortnite. Ça a été accepté par la Cour supérieure du Québec. Donc, il y a toutes sortes de recours comme ça qui se produisent. 41 États aux États-Unis qui poursuivent Meta. Bon, ça, c'est pour les données de la vie privée, mais pour l'addiction aux jeux vidéo, il y a plusieurs recours en cours pour justement que le politique avance sur ces questions-là puis qu'il laisse pas ces compagnies-là qui vont pas s'auto-réguler parce que...
C'est la loi de la jungle, présentement.
Exactement, puis c'est hors frontières,
ouais,
sans foi.
Des fois, c'est sans gêne, là, c'est comme dans le jeu, là, vas-y, donne-nous de l'argent, tu vas avoir un bonus. Là, vas-y, donne-nous de l'argent, tu vas avoir un bonus. Tu sais, c'est même
mais
pas
pas subtil.
Puis c'est ça.
C'est des mécanismes
puis c'est donne-nous de l'argent, tu vas avoir une chance que si d'avoir un bonus peut-être si tu payes.
Ouais. Puis c'est les mécanismes de jeu d'hasard et d'argent, là, tu sais, d'avertir le consommateur qui face à ces mécanismes-là, c'est comme l'Auto-Québec, où juste que là, c'est dans le jeu vidéo, puis c'est un jeune, un adolescent qui n'est pas capable de se contrôler, qui est face à ça.
Fascinant. Merci infiniment, Sarah-Christine. On peut lire ton article qui est en ligne. Je suis presque gêné de
le
dire.
Vous pouvez aller le voir dans le papier aussi.
Ah oui, ça c'est vrai, on peut le lire en version papier, mais aussi en ligne sur notre site web. C'est sur leverbe.com. Merci infiniment, Sarah-Christine.
Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com.
C'est déjà tout pour cet épisode d'On n'est pas du monde, mais il nous reste une petite minute pour des suggestions pour aller plus loin. Si on veut faire un pas de plus là, dans poser un geste, par exemple,
une ressource, poseton écran.com. En un seul mot. C'est une ressource sur laquelle on va retrouver des questionnaires, comme le disait Sarah-Christine, qui sont très ludiques. On pose des questions, ils nous posent des questions, on répond, ils vont donner des statistiques au travers, c'est très intéressant. Et ils nous permettent d'évaluer un peu c'est quoi notre utilisation des écrans. Ils ont des questionnaires pour les adolescents et pour les adultes. Il y a aussi toute une liste de ressources. Donc, en fonction du problème auquel on est confronté, est-ce que c'est un adolescent qui a un problème avec les jeux vidéo? Est-ce que c'est nous qui avons un problème peut-être avec de la pornographie? Des références et des personnes à contacter. Et des articles aussi, donc une excellente ressource.
Pour ton écran.com, merci Ariane. 15 secondes, Sarah-Christine.
Philippe Gendreau, Éco-Société, GAFAM, le monstre à cinq têtes, qui vulgarise, c'est ça, que l'influence de ces compagnies-là dans nos vies. Ça s'adresse aux adolescents, donc ça se lit très bien, mais aux adultes aussi, comme qui n'arrivent pas à lire des gros livres, des gros bouquins épais, ben, c'est très facile à lire.
Merci, Sarah. Et rapidement, Jérémy?
Oui, je vous propose un article du Verbe publié par, écrit par Anne-Marie Rodrigue, notamment ma femme, mais c'est pas pour ça que je vous le propose. C'est un excellent texte qui s'intitule « Pascal contre TikTok, réflexion plus philosophique sur pourquoi est-ce qu'on cherche tant à se divertir, puis peut-être que cette impulsion-là elle-même est la source du problème. » Donc, voilà.
Merci infiniment. Merci d'avoir été là pour cette discussion. C'était vraiment très enrichissant. Merci pour ton témoignage, Jérémy. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et je salue les recherchistes Marie Laliberté, Frédéric Bérubé et James Langlois qui ont contribué à cet épisode. Et Marianne Martin et Barthélémy Rieux à la régie. Et je vous salue et vous dis à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.